Vous êtes sur RTL.
À tout à l'heure.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Je vous rappelle que nous avons rendez-vous avec Laurent Gérard dans quelques instants. Et ça, je suis sûr que vous êtes fidèle au rendez-vous. Mais à 8h39, on s'intéresse à notre revue de presse avec Amandine Bégaud. Et d'abord, Amandine, bientôt un jardin géant en plein cœur de Paris.
Oui, imaginez, fini les klaxons et les embouteillages au pied de la Tour Eiffel. La mairie de Paris nous promet ce matin dans les colonnes du Parisien une ambiance beaucoup plus tranquille. Anne Hidalgo veut piétoniser tout le quartier de la Tour Eiffel, de la place du Trocadéro à la place Joffre, tout au bout du Champ de Mars, et ce, dès 2024. Un immense jardin de 50 hectares, l'équivalent de plus de 70 terrains de foot, montant du projet 72 millions d'euros, qui seront, précise le Parisien, entièrement financés par la redevance que verse à la ville, la société qui gère l'exploitation de la Tour Eiffel. Alors sur le papier, il faut le reconnaître, c'est magnifique, une sorte de Central Park en plein Paris. Le projet, en revanche, est loin de faire l'unanimité. Vous allez comprendre pourquoi la maire du 16e arrondissement s'inquiète. On continue, dit-elle, de jeter les voitures hors de Paris. Les véhicules, en effet, ne pourront notamment plus traverser la Seine à ce niveau-là. Ils seront renvoyés derrière la place du Trocadéro ou alors sous les tunnels au niveau des quais. Ça promet des débats animés à un an maintenant des élections municipales.
Alors à Marseille, ce qui inquiète, ce ne sont pas les voitures ni les jardins, mais tout simplement le niveau de la mer.
Plus 16 cm en 100 ans, c'est ce qu'on découvre ce matin dans les colonnes de la Provence. Dans un premier temps, les spécialistes ont cru à une erreur, à un affaissement du marégraphe chargé de mesurer le niveau de la mer. Son installation date de 1885, il aurait donc pu bouger avec le temps, mais non, écrit le journal. Ces scientifiques ont dû se rendre à l'évidence, la mer gagne bien du terrain, conséquence sans doute du réchauffement climatique, et ce n'est sans doute pas terminé, puisque selon une étude que publie ce matin Le Monde, le niveau des mers à l'échelle mondiale pourrait progresser de 2 mètres d'ici 2100, 2 mètres 4 même, selon le pire des scénarios. Dans le cas de la France, c'est toute la Camargue, explique la Provence, qui pourrait disparaître sous les eaux. En attendant, c'est le printemps qui se fait attendre. Où est passé le beau temps, s'interroge ce matin l'Alsace, qui note qu'il fait depuis des semaines 3 à 4 degrés de moins que la normale et qu'il pleut un jour sur deux. Il pleut, l'économie trinque, titre de leur côté les dernières nouvelles d'Alsace. De nombreux secteurs en effet souffrent, les cafetiers, les commerces d'habillement. Vincent, qui a plusieurs magasins de chaussures à Colmar, a ainsi vu son chiffre d'affaires baisser de 10 à 15%. Un retard, dit-il, qu'on aura sans doute du mal à rattraper. Aussi son commerçant, et il s'inquiète à la une du Midi Libre. Les commerçants de Montpellier lance ce matin un appel au secours. On va droit dans le mur, dit l'un d'entre eux. Des mois qu'ils voient leur chiffre d'affaires dégringoler avec les manifestations des Gilets jaunes, mais ils n'ont rien touché, rien, pas un centime. Et pour cause, la ville n'a pas candidaté au fonds de soutien des centres-villes proposé par l'État, plus de 5,5 millions d'euros, pour aider les professionnels à faire face à une histoire de rivalité, visiblement, explique le journal, entre la mairie et la Chambre du commerce.
Bravo.
Dans la 7e ville de France, écrit Émilie Lebec, on préfère se tirer dans les pattes. Depuis le 17 novembre, les commerçants du centre-ville de Montpellier disent avoir perdu 60 à 70% de leur chiffre d'affaires. Pour faire face, certains ont décidé d'ouvrir le dimanche, mais cela ne compense pas. L'un d'eux s'étonne que la ville, en revanche, ait pu demander de l'argent à l'État. Pourquoi ? Pour réparer le mobilier urbain. Enfin, je ne pouvais pas ce matin terminer cette revue de presse sans vous parler de cette une sublime, celle de l'équipe Niki l'Audacieux, titre le journal, avec une magnifique photo en noir et blanc du champion de Formule 1 disparu hier à l'âge de 70 ans. En page intérieure, un autre cliché, toujours en noir et blanc, mais pris des années et des années plus tard. Niki Lauda porte cette casquette qu'il ne quittait plus depuis son spectaculaire accident en 1976. Mais le regard, lui, est le même, hein, intact, déterminé, toute sa vie, l'équipe, Lauda, le grand brûlé, le miraculé, a refusé toute chirurgie esthétique, à l'exception d'interventions indispensables au bon fonctionnement de ses paupières. Tant qu'il n'y a pas de problème fonctionnel, dit-il, je ne préfère ne rien changer à mon aspect physique. Il serait insensé, ajoutait-il, de faire des complexes parce qu'il vous manque un bout d'oreille. Quant à ma calvitie, j'en ai tiré, disait-il, quelque chose de positif. Parmala, son sponsor de l'époque, me verse pas mal d'argent pour le port permanent de cette casquette. C'est pour ça aussi qu'il la portait. La fameuse casquette rouge était pourtant, explique l'équipe, bien plus qu'une source de revenus. Très récemment, Niki Lauda avait avoué ceci. Elle me protège. Elle me protège de ces gens stupides qui me regardent en se demandant ce qu'il y a en dessous. Vous savez, ceux qui ne vous regardent pas droit dans les yeux quand ils vous parlent. C'est très fort, c'est touchant, tout autant que le témoignage d'Arturo Merzario, le pilote qui, à l'époque, avait extrait Niki Lauda du brasier. Ils mettront 30 ans, raconte-t-il ce matin, 30 ans, oui, à devenir amis. C'est dingue, c'est à lire. à lire où vous voulez, en terrasse, dans les embouteillages ou bien sûr dans un parc, il va faire beau.
C'était la revue de presse d'RTL, proposée comme chaque jour par Amandine Bégaud. Dans un instant, Laurent.